Bientôt 8h23 à Paris, RFI Matin se poursuit et à suivre toujours avec le hashtag RFI Matin sur les réseaux sociaux. Voici la revue de presse. Frédéric Couteau, bonjour.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
À la une, Macron est-il le président des riches ?
Oui, cette étiquette lui colle à la peau comme le sparadrap du capitaine Haddock depuis la suppression de l'impôt sur la fortune et elle ne risque pas de se décoller avec sa récente décision de supprimer l'exit tax, cet impôt sur les plus-values mobilières qui touche sous certaines conditions les contribuables français les plus riches partis s'installer à l'étranger. Cette exit tax, remise au goût du jour par la droite en 2011 et durcie par la gauche en 2013, avait pour objectif, nous explique Libération, d'empêcher un entrepreneur ou le titulaire d'un gros portefeuille de choisir l'étranger pour profiter de systèmes fiscaux plus cléments au moment de la vente de son entreprise ou de ses titres. C'est finalement la suite logique des mesures que nous avons prises dans le budget 2018, défend la députée LREM Amélie de Montchalin dans Libération. À partir du moment, poursuit-elle, où on supprime l'ISF et qu'on crée une flat tax sur les revenus du capital, il n'y a pas de raison de garder un résidu de taxe qui reste un repoussoir pour les investissements en France. En tout cas, ces explications ne convainquent guère, à gauche comme à droite, c'est ce que pointe le Figaro avec notamment ces deux réactions. Emmanuel Macron, c'est encore et toujours excite la taxe pour les plus fortunés qui pourront désormais s'exiler fiscalement en toute impunité, tacle le député Nouvelle Gauche Boris Vallaud. Je ne comprends pas cette décision qui ne concerne pas les très riches mais les ultra riches, a renchéri le député Les Républicains et ancien président de la commission des finances Gilles Carrez.
Et dans les éditoriaux, on constate qu'Emmanuel Macron a de la suite dans les idées.
Oui, après la réforme de l'ISF et l'instauration de la flat tax unique sur l'épargne, l'avis de décès de l'exit tax démontre la belle opiniâtreté du président, constate le républicain Lorrain. Avec constance et application, il s'emploie en effet à donner des gages au marché, aux investisseurs et aux très riches. La Charente libre n'en revient pas. Annoncer le jour de la fête du travail la suppression d'une taxe sur le capital des exilés fiscaux, c'est oser. Le faire dans le magazine américain Forbes, héros du libre-échange, quand Paris panse les plaies ouvertes par des casseurs anticapitalistes de plus en plus nombreux à chaque manifestation, c'est risqué. Le véritable révolutionnaire, finalement, n'est pas dans la rue, s'exclame le quotidien charentais. Non, il habite à l'Élysée. Libéré, délivré du carcan hexagonal, Emmanuel Macron se lâche dans l'arène économique jusqu'à faire passer le créateur de l'exit tax, Nicolas Sarkozy, pour un gauchiste protectionniste.
En fait, analyse les échos, le chef de l'État ne répond jamais à la pression, règle numéro 1.
Oui, la France sociale manifeste, le pouvoir d'achat s'installe en tête des revendications, une frange de moins en moins timide de la République en marche rêve d'un rééquilibrage à gauche de la politique menée. Eh bien non, Emmanuel Macron fait tout l'inverse et finalement, pointe les échos, le président affiche sa cohérence. Il pense attractivité avant toute chose. Pour remettre à flot la start-up nation, il ne perd jamais de vue sa boussole qu'est l'entrepreneur. Avant de pouvoir redistribuer, il faut produire, a-t-il récemment expliqué à la télévision. En effet, renchérit le quotidien libéral L'Opinion, cette décision annoncée dans un média américain qui plus est, dit beaucoup de ce que veut faire Emmanuel Macron vis-à-vis des entrepreneurs. Faciliter la prise de risque et rendre possible la récompense.
À la une également, toujours ces fameux Black Blocs, auteurs des violences avant-hier lors du défilé du 1er mai à Paris.
Oui, et l'un d'entre eux s'explique ce matin dans le quotidien Libération. Le Black Bloc n'a rien d'apolitique, affirme-t-il. Il ne frappe pas aveuglément. Son essence est de montrer la conflictualité sociale, la logique de répression. Au quotidien, l'État exerce une pression sourde sur différents groupes du corps social, les exilés, les sans-papiers, les zadistes, certains mouvements étudiants, les salariés au chômage, les squatteurs. Par sa volonté de confrontation, le Black Bloc met le doigt sur cette frontalité et pousse l'État dans ses retranchements afin qu'il affiche son vrai visage.
Des explications qui ne convainquent guère Libération.
Libération qui rappelle dans son éditorial que les actions plaquées, violentes et minoritaires, destinées à éveiller la conscience des masses, ont été rejetées au sein du mouvement ouvrier il y a maintenant plus d'un siècle. Appliquées aujourd'hui, elles ne servent qu'à justifier les actions de la police, à renforcer la droite et à gêner le mouvement syndical. Toujours est-il, remarque la Nouvelle République du Centre-Ouest, que les Black Blocs ont parfaitement réussi leur affaire. Voici le gouvernement contraint à de filandreuses explications. tandis que les syndicats en porte-à-feu se tortillent et s'empêtrent dans d'inaudibles justifications. Entre les deux, le cortège des manifestants pacifiques et anonymes, mais à visage découvert, mardi, se voit muselé et privé de ses revendications. Jolie récup, s'exclame la Nouvelle République, jolie récup sur le dos des masses laborieuses. En effet, s'insurge l'humanité. Les pouvoirs publics semblent avoir trouvé plus simple de laisser faire la casse des autonomes pour mieux ensuite hausser le ton dans les journaux de 20h et résumer ce 1er mai à des vitrines brisées et autres voitures en flammes. La ficelle n'est pas neuve, mais elle est si grosse que plusieurs élus réclament une commission d'enquête parlementaire. Souhaitons, conclut l'UMA, souhaitons qu'elle torde le cou aux manipulations de toutes parts.
Et puis le football, Marseille joue ce soir pour un billet en finale de la Ligue Europa, c'est le match retour contre Salzbourg.
Et attention, prévient le Parisien, malgré leur 2-0 de la semaine dernière, les hommes de Rudy Garcia s'avancent sur la pelouse de Salzbourg un peu circonspect. C'est vrai, pointe le journal, il y a la forme internationale de Payet, l'insolence devant le but de Thauvin, la polyvalence de Luis Gustavo, les poumons de Bounassar, mais il y a en face Salzbourg en quart de finale retour, rappelle le Parisien. Après s'être incliné 4-2 à l'aller en Italie, les Autrichiens avaient trouvé les ressorts pour couler les Romains de la Lazio grâce à un cinglant 4-1 pour l'Olympique de Marseille, conclut le Parisien. C'est donc le moment de serrer la vis et d'envoyer la cavalerie offensive.